Allo Cowork, l'émission qui répond à vos questions, présentée par Élodie Rabel.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette première de Allo Cowork. Vous posez vos questions et chaque semaine, nos experts répondent et vous aident. Deux experts autour de la table aujourd'hui pour parler des nouvelles façons de travailler. Vous êtes prêts, messieurs ?
Prêts.
C'est parti.
Allo Cowork, l'émission qui répond à vos questions.
Aujourd'hui, on s'intéresse au Flex Office, un espace de travail flexible, partagé, très en vogue ces dernières années et encore plus avec la crise sanitaire et le recours au télétravail. Pour en parler sur le plateau, nous recevons Laurent Assouli, ethnologue et professionnel de l'aménagement des bureaux. Bonjour Laurent Assouli.
Bonjour.
Et avec nous aussi, Jérôme Chemin de la CFDT Cadres. Bonjour à vous.
Bonjour Elodie.
Alors ce que je vous propose, c'est d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Notre première question d'auditeur, elle est sûrement pour vous, Laurent Assouli. Le flex office, on en entend beaucoup parler, mais concrètement, ça veut dire quoi ?
Écoutez, le flex office, c'est tout simplement la suite de l'open space. Donc un espace paysager, bien évidemment, et puis le principe de bureau partagé. Ça a commencé il y a une dizaine d'années. C'était au départ réservé, je dirais, à des consultants, à des vendeurs. Et puis, depuis ces dernières années, ça s'est propagé aux salariés sédentaires. Donc ça, c'est la grande nouveauté. Les entreprises ont décidé en réalité de scientifiser le temps d'occupation des salariés, de scientifiser la façon dont ils travaillaient pour essayer de réduire les surfaces immobilières et d'opérer des gains économiques à propos tout simplement de la facture immobilière.
Ça répond un peu à une autre question d'auditeur là, qui veut monter son entreprise, une start-up, des coûts en moins. C'est l'un des avantages du flex office ?
Alors c'est un des avantages. On peut économiser environ 30% de surface immobilière en moins. Donc ce n'est pas anodin, notamment sur Paris et la région parisienne. Et puis après, la difficulté, c'est de vendre le dispositif aux salariés. Et c'est là où, effectivement, les problèmes commencent.
Alors justement, quels avantages pour les collaborateurs ? Comment les convaincre de passer au flex office ?
Eh bien, la rhétorique est utilisée par les employeurs, c'est de dire que ça va favoriser la communication, puisqu'il va y avoir donc une certaine promiscuité entre salariés. Donc tout ça est très discutable. Ce n'est pas parce que vous mettez des salariés dans un bocal que vous avez une communication de qualité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième argument qui est avancé donc par les employeurs, eh bien, c'est le fait qu'en changeant de place régulièrement, eh bien, ces salariés vont tisser des relations sociales avec différents collaborateurs. Là aussi, ça soulève la question, est-ce que le fait de changer de place régulièrement, est-ce que ça va véritablement favoriser, accroître le cercle relationnel des salariés ? Je pense que non. Les études là-dessus le démontrent. Si vous regardez le milieu universitaire, les étudiants qui sont jeunes ont l'habitude de s'asseoir à la même place pour un certain nombre de raisons.
Mais ça, c'est un réflexe qu'on garde dans la vie d'adulte ? On reste toujours à l'école ?
Oui, parce que c'est difficile de ne pas avoir un cercle intime et de changer tous les jours de place et de ne pas avoir de repères spatiaux et puis de repères psychologiques qui vont vous sécuriser. Donc changer de place tous les jours, ce n'est pas une bonne idée, c'est une fausse bonne idée.
On peut aussi imaginer que ça peut apporter un certain confort. On voit dans les espaces de coworking qu'il y a plusieurs espaces. On peut être dans une grande table, une petite table un peu plus intimiste. Il y a même des endroits où on peut être un peu plus enfermé, un peu plus cocooning. Selon ce qu'on a à faire, ça ne peut pas être justement une liberté de choix dans la façon de travailler ?
Alors c'est vrai que si vous regardez ces espaces-là, ils sont beaucoup plus esthétisants qu'il y a quelques années. Ça, c'est indéniable. On va dire que c'est le point positif. Mais je dirais que c'est un dispositif de compensation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites à un salarié « Tu n'as plus ton bureau, mais ce bureau est partagé par 2, 3, voire 4 salariés », en compensation, l'employeur va mettre à disposition des salles pour s'isoler, des espaces de cafétéria, pour effectivement essayer de rendre les choses un peu plus agréables.
Vous êtes d'accord avec ça, Jérôme Chemin ? La compensation, c'est... on perd forcément quelque chose, alors quelque part, il faut une carotte pour que les collaborateurs soient toujours satisfaits d'aller travailler ?
C'est qu'aujourd'hui, on se pose la question de se dire je ne vais pas au travail, mais si je vais au bureau, qu'est-ce que je vais y faire? Et c'est vrai que ça, c'est la principale question qu'il faut se poser. Et on se rend compte, en effet, qu'une certaine population, et j'y reviendrai peut-être dans vos questions, mais une certaine population accepte ce mode de fonctionnement, mais pas toutes les populations de l'entreprise.
D'un côté, ça implique de trimballer, excusez-moi du terme, son bureau avec soi tout le temps, vu qu'on ne peut pas le laisser à son bureau personnel comme il est traditionnellement le cas.
Oui, on les a appelés les escargots pendant longtemps. Moi, je fais partie de l'entreprise Accenture, donc qui a mis en place le Flex il y a de nombreuses années. Et c'est vrai qu'on avait l'habitude de voir les consultants au départ, puisque c'était eux qui étaient d'abord en Flex, toujours avec leur sac à dos, avec les ordinateurs portables qui n'avaient souvent que le nom de portable, et qui se trimbalaient donc toute la journée d'une salle à l'autre, leur ordi, et avec leur gros sac, on les appelait les escargots. Mais c'est tout à fait ça, oui, oui.
Alors justement, si mes employés, et ça c'est une autre question d'auditeur, travaillent déjà en bureau traditionnel, Jérôme Chemin, vous avez vu la bascule. Comment on met bien en place un flex office?
Alors la première chose justement, c'est de voir l'organisation du travail. Et ça c'est quelque chose sur lequel on est très clair à la CFDT4, c'est de se dire voilà, le flex c'est pas en gros je te donne un ordinateur portable et tu te déplaces comme tu veux. C'est de se dire, ce que je disais tout à l'heure, si je viens au bureau, qu'est-ce que je dois y faire? Donc c'est intéressant si je suis consultant, je viens plutôt au bureau pour rencontrer des collègues, donc je vais avoir un espace détente un peu plus grand. J'ai besoin de rencontrer des gens, donc je fais des réunions, j'ai besoin d'avoir un peu plus d'espace de réunion, et éventuellement un bureau assis pour traiter quelques mails, etc. Mais pas un bureau que je vais utiliser toute la journée. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, je peux le vendre aux salariés consultants. Par contre, la nécessité pour lui, c'est d'avoir une place assise. Et c'est souvent malheureusement pas le cas. Après, on pourrait parler des fonctions support pour qui c'est complètement différent. Et là, les attentes ne sont pas les mêmes. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez que je développe, parce que
peut-être
c'est quelque chose d'important.
Oui. Vu que vous êtes spécialiste de l'aménagement de bureau, comment on fait le switch entre un bureau traditionnel et un bureau en flex office? Comment on met ça bien en place dans l'entreprise?
On essaye effectivement d'impliquer, si c'est possible, toutes les parties prenantes dans ce débat. C'est pas toujours le cas. On essaye en amont de mettre en place une analyse en détail des besoins et aussi des aspirations des salariés. Et puis on discute des objectifs. Et puis on essaye de faire ce qu'on appelle un principe d'expérimentation et de réversibilité. C'est-à-dire qu'on essaye, on teste des choses, et puis il faut avoir l'humilité de revenir en arrière si les choses ne fonctionnent pas. Mais ça, c'est quelque chose qui marche très peu. C'est-à-dire, à partir du moment où les employeurs ont décidé de partir sur un flex office, il est très très rare qu'ils reviennent en arrière. Donc la stratégie qui va
Vous
être déployée,
c'est
plutôt...
unilatéral comme décision ?
Non, mais c'est assez fin, si vous voulez. On va trouver... toute une rhétorique pour les convaincre. Alors en ce moment, il y a un levier qui est formidable, c'est le levier du télétravail. Donc la discussion est assez simple. On te donne 2 jours de télétravail ou 3 jours de télétravail et tu nous laisses les mains libres sur toutes les questions qui ont trait à l'aménagement des espaces de travail. Et c'est comme ça que le contrat implicite s'opère aujourd'hui dans les grandes organisations ou même les plus petites. Je te donne des jours de télétravail, tu me laisses les mains libres pour aménager les espaces de travail comme moi, employeur, je l'entends. Et ça veut dire, je profite de cette aubaine pour réduire ma surface immobilière et opérer des gains économiques.
Vous faites un peu la transition avec une nouvelle question. Un auditeur soucieux du bien-être de ses collaborateurs, dans quels écueils on peut tomber quand on travaille en flex office ? Jérôme Chemin ?
Eh bien justement, je pense que c'est la négation de la place de travail. C'est-à-dire qu'une place de travail, ce n'est pas seulement un endroit où je vais me poser, etc. C'est un endroit aussi où je me projette. C'est-à-dire, quand je parle du travail à mes amis, à ma famille, j'identifie, je me vois assis à mon poste de travail, qui est souvent le même, et je rejoins ce qui est dit, c'est vrai. Moi, j'appelle ça le réflexe du voyage organisé. C'est-à-dire, dans le cas, on va s'asseoir toujours à la même place. Au bureau, on va s'asseoir toujours à la même place. Et si on supprime ça au salarié, on lui supprime une partie de son identité. Donc l'écueil, c'est vraiment important déjà de sonder l'importance. Je pense que quelqu'un, par exemple, qui est dans les ressources humaines ou dans les services juridiques, a besoin d'une place assise, a besoin d'avoir une place fixe pour pouvoir travailler, se concentrer et surtout dans un espace confidentiel. On sait l'importance pour le juridique. Donc le premier écueil déjà, c'est de ne pas faire une analyse vague, mais de faire une analyse par secteur, par service, voire par personne, parce qu'il y a des gens qui ont fait une aspérité à travailler en flex, pourquoi pas, d'autres qui sont beaucoup moins. Mais ça demande du temps et du travail. Donc ça, Je pense que le premier écueil, c'est ça. Le deuxième écueil, c'est le temps. Et moi, j'aime beaucoup l'idée, je rejoins tout à fait l'idée de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'il faut expérimenter, il faut se donner la possibilité de revenir en arrière. Malheureusement, souvent, les projets de flex office sont pris dans l'urgence en cas de déménagement de locaux ou en ce moment, dans la préparation du retour des salariés sur place. Là, on essaie d'aller très très vite pour comprimer les espaces, offrir du télétravail, pour pas que les gens reviennent trop vite et surtout reviennent sur un espace moins grand. Là, je pense en ce moment qu'on n'est pas dans une très bonne situation pour faire un bon projet de flex.
En résumé, il faut que les dirigeants fasse un travail conjoint avec les ressources humaines, ça paraît essentiel à vous entendre.
Les ressources humaines, les salariés, les managers de proximité, les représentants du personnel, parce que bah, on va être un moment consulté sur le projet, donc il faut qu'on donne un avis un petit peu éclairé, et pas forcément toujours bloquant brûler des pneus à l'entrée de l'entreprise parce qu'on n'est pas content. Donc là, je pense que c'est quelque chose d'important. C'est vraiment de mettre tous les acteurs de l'entreprise autour de la table. Ça fait peur parce que ça coûte de l'argent et ça prend du temps, mais c'est le temps qu'on peut-être qu'on prend au début, on le gagne à chaque fois à la fin.
Alors comment on fait, par exemple, si on veut le faire maintenant, ce projet de flex office avec nos employés à droite, à gauche, chez eux, comment on fait pour bien se réunir et en parler ensemble? On fait une visio Teams?
Alors justement, c'est les grands projets qu'il y a dans de grandes entreprises actuellement, qu'on accompagne nous à la CFDT. Et le premier conseil que l'on donne aux dirigeants, en tout cas, c'est d'attendre le retour à une situation normale pour pouvoir se poser et réfléchir. C'est malheureusement pas suivi dans beaucoup de boîtes actuellement, mais c'est essentiel de le faire parce que il y a en ce moment, en effet, des gens qui sont éparpillés, qui même par visio, Teams, Zoom, etc., ne donnent pas le même avis que s'ils étaient tous ensemble. Vous savez, quand vous êtes dans une réunion, dans une même salle, il y a le phénomène de la masse qui joue. Là, vous vous retrouvez tout seul devant votre écran à exprimer une opinion sans savoir si vous allez être soutenu par vos collègues. Et c'est très difficile de faire un travail collectif, même si on a les outils aujourd'hui qu'on appelle dits collaboratifs, qui n'ont des fois malheureusement de collaboratif que le nom.
Bon, on le dit, alors The Flex Office, il a une certaine popularité et beaucoup d'entreprises le mettent en place pendant la crise sanitaire. On prépare tous le retour au bureau en présentiel, voilà. Qu'on a inventé ces derniers mois. Laurent Assouli, le Flex Office, est-ce que c'est la solution pour travailler pendant la crise sanitaire? Un auditeur nous demande si c'est plus sûr d'un point de vue sanitaire.
Mais non, c'est vrai qu'il y a une espèce de rumeur qui court comme quoi le flex office ou les espaces paysagers seraient des espaces plus sécurisants. En réalité, même l'argument qui est avancé, c'est qu'ils seraient plus hygiénistes, puisque n'ayant pas de barrière, le ménage peut être effectué plus facilement. Alors c'était quand même un argument assez fallacieux. Non, les espaces paysagers ne sont en rien quelque chose d'intéressant en situation pandémique. Bien au contraire, ce qui est intéressant en situation pandémique, c'est de mettre à disposition des salariés quelques bureaux fermés, avec accès à une fenêtre pour que ces salariés puissent éventuellement travailler de temps en temps sans mettre le masque. Et c'est ce que j'appelle le droit à respirer. Donc j'invite les aménageurs des espaces de travail à penser à mettre un certain nombre de bureaux fermés avec accès à une fenêtre pour que ces derniers puissent travailler sans masque et simplement respirer.
Alors justement, un patron d'entreprise nous demande justement cette question du bureau fermé. Est-ce que c'est quelque chose, vous avez l'air de le dire, d'obligatoire, ou est-ce qu'il faut aussi penser à que le chef d'entreprise soit à peu près comme tout le monde, à ne pas avoir de bureau à lui tout seul?
Vous savez, ça me fait penser, il y a quelques années, il y avait un président de la République qui disait que la normalité, c'était quelque chose d'important. Vous voyez comment ça s'est fini. Non, un chef d'entreprise...
On pour nos auditeurs.
Non, mais un chef d'entreprise, il n'a pas à se fondre dans la masse. Il doit se distinguer par son exceptionnalité. Et donc, le fondre dans la masse des salariés, à moins d'être très démagogique, je n'en vois pas l'intérêt. D'autant plus.
L'horizontalité, ça ne marche pas pour vous.
La quoi, pardon?
L'horizontalité des relations salariales, ça ne marche
pas
pour vous.
Si, mais il y a des limites. Une entreprise, c'est pas une démocratie. Les salariés ne vont pas élire au suffrage universel les dirigeants d'entreprise, que je sache.
Oh, il y a des motions de défiance qui peuvent exister.
Oui, il y a des motions de défiance, mais une entreprise, ça ressemble davantage à un régime tyrannique, un gentil régime tyrannique, qu'à une démocratie. Je le répète, on ne va pas élire le comité de direction. Donc c'est un contrat social qui est passé entre la direction et les salariés. je te donne mon temps de travail, moi salarié, en contrepartie de quoi je reçois un salaire. Voilà, c'est d'abord ça le monde du travail.
Et donc un bureau fermé pour le chef d'entreprise.
Pardon ?
Un bureau fermé séparé des autres collaborateurs non, pour le chef.
Peut-être pas un bureau fermé tout le temps, mais c'est important qu'il ait son bureau fermé. Et c'est un leurre que de penser que s'il se met dans la masse, tout à coup les choses vont changer.
Vous êtes d'accord avec ça, Jérôme Chemin ?
C'est très intéressant cette question. C'est le principal écueil qu'on a eu au début du Flex, quand on mélangeait toutes les populations, c'est que vous ne saviez pas à côté de qui vous étiez assis. Et donc justement, ce que disait au début, il aurait été très intéressant sur on a voulu mettre en place les flex pour permettre aux gens de se parler, etc. Il faut rappeler toujours ce que je dis, c'est que la messagerie instantanée est apparue en entreprise grâce au flex. Parce que les gens ne pouvaient plus parler. Et on a donc installé, moi je me souviens l'avoir fait, j'ai installé Skype très tôt sur mon ordinateur, parce que je ne pouvais plus parler avec mon collègue en face, parce que mon responsable était derrière moi. Et donc si on met la question n'est pas de savoir est-ce que le patron peut avoir une place au milieu de ses salariés, c'est est-ce que les salariés ont envie d'avoir le patron au milieu. C'est d'abord ça la question.
Un risque de hypervigilance permanent, c'est ça.
De toute façon, le bureau ouvert a eu aussi une fonction qui est très peu avouée quand même par les patrons, c'est de la surveillance généralisée et permanente. C'est-à-dire on est toujours visible et à chaque fois on est capable de voir ce que fait son collègue, donc il y a une surveillance réciproque de savoir ce que fait l'un, ce que fait l'autre, etc. Donc c'est quelque chose de très pernicieux.
C'est pas plus l'open space qu'est comme ça, parce que on aurait tendance à penser que le flex office, vu que on bouge un peu tout le temps, qu'il y a des espaces un peu plus intimes que d'autres,
Ce qui est intéressant dans le flex, c'est que justement, comme il y a plusieurs changements dans la journée, vous savez, un collègue en open space, vous l'espionnez en début de journée, puis après vous l'oubliez un peu, vous passez à autre chose. En flex, comme ça change tout le temps, vous allez toujours avoir un petit temps d'accommodation avec le salarié qui vient s'asseoir à côté de vous. Vous allez regarder ce qu'il fait, vous allez écouter ses conversations, etc.
Tandis que dans l'open space, au bout d'un moment, ça fait partie du paysage, on ne le voit plus.
On ne le voit plus, voilà, oui. Mais vous savez, vous pouvez traverser des open space à longueur de journée, etc. La première chose que disent les gens quand ils découvrent un open space pour la première fois, c'est le calme. On n'entend rien. Il n'y a pas de bruit, parce que les gens, justement, n'osent plus parler. Sauf dans les équipes, et là, quand vous traversez un open space où les gens se connaissent, et les gens sont en effet en mode collaboratif, là, il y a un bruit, il y a des échanges, etc. Mais la plupart du temps, ce sont des espaces complètement calmes.
En définitive, pour répondre concrètement à notre auditeur, vous aussi, vous êtes un partisan d'un chef dans un bureau
Ça donne une image sociale, ça donne une image, je suis un peu comme vous, etc. Mais il faut déjà poser la question aux salariés de façon anonyme. Est-ce que vous seriez content de me voir dans les bureaux avec vous ? Je pense que ça serait la première chose à demander.
La dernière question, dans le monde d'après, on en parle encore une expression à la mode en ce moment. Est-ce qu'on sera tous en flex office ? Est-ce qu'on sera tous des travailleurs nomades ? Qui se lance ?
Alors, d'abord, le monde d'après, c'est le télétravail. Et ça change complètement la donne.
Mais alors le télétravail comment ?
Alors c'est le télétravail, et déjà quand vous êtes en télétravail, quand vous êtes salarié, si vous êtes en 2 ou 3 jours en télétravail, votre droit à revendiquer des mètres carrés au sein de l'entreprise est forcément amoindri. Quelle est votre légitimité si vous êtes 3 jours par semaine chez vous à réclamer un bureau et des mètres carrés quand vous n'êtes que 2 jours dans l'entreprise ? Cette légitimité, elle est en train de fondre. La deuxième étape que je vois après ce monde d'après, ce télétravail, c'est le remote. C'est-à-dire
le remote,
la possibilité de travailler de n'importe quel endroit dans le monde. À partir du moment où vous êtes 4-5 jours en télétravail, vous pouvez travailler depuis Bali. À partir du moment où vous avez institué le dispositif qui consiste à dire « je mets mes salariés 4 ou 5 jours en télétravail », je peux faire du sourcing de salariés partout à travers le monde. Et en instituant ce télétravail, ce flex office, qui est finalement un dispositif de distanciation entre le salarié et l'entreprise, vous cassez ce lien affectif et vous ouvrez la boîte de Pandore d'un sourcing de salariés au plus offrant, au plus intéressant, à travers le monde. Et donc, c'est le risque, à mon avis, que je vois dans les années à venir.
Jérôme Chemin.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis plus capable de vous dire si un secteur d'activité peut échapper au flex. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est contactés par des entreprises, certes, de n'importe quel secteur, mais aussi des entreprises publiques, des services publics qui se mettent à faire du flex office. Donc aujourd'hui, ça va concerner absolument tout le monde. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que c'est quelque chose, voilà. Ça ne sera pas accompagné de la même façon, par contre.
Pourtant, il y a quand même une partie de la population, une analyse au doigt mouillé, une majorité de personnes qui en ont marre du télétravail. Il y a les enfants, il faut faire les courses, il y a du bruit, on n'a pas forcément aussi l'équipement qu'il faut à la maison. Donc, le travail comme avant, c'est fini ?
C'est un très très bon point. C'est que je pense qu'actuellement, là, si vous demandez mon analyse actuelle de la situation, je pense qu'il y a un problème de vision entre les directions d'entreprise et les salariés. Je pense que les entreprises surévaluent le besoin de télétravail des salariés. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de télétravail, je ne dis pas qu'on va revenir en arrière à zéro, etc. Mais estimer que les gens vont tous demander en revenant 3 à 4 jours de télétravail, déjà je pense qu'en revenant les gens vont plus demander de télétravail pour beaucoup, mais je pense que penser que les gens vont demander 3 à 4 jours, c'est une utopie. Et le problème que l'on a, et ça a été dit tout à l'heure, c'est très facile de surévaluer le nombre de places et de réduire ensuite. Par contre, quand vous réduisez dès le départ et que vous voulez remettre un nombre de places plus important après, c'est quasiment impossible. Donc moi, je suis inquiet de cette situation-là aujourd'hui. Je pense qu'on va trop vite, trop loin. Vous savez, en tant qu'organisation syndicale, c'est ce que j'ai toujours, on est quand même dans une situation complètement schizophrène. On s'est retrouvé dans des entreprises, des grands groupes, à vouloir pousser le télétravail pendant des années, et aujourd'hui, on se retrouve à vouloir le freiner. Ce qui est quand même très, très ambivalent, voilà, ce qui est quand même quelque chose de tout à fait neuf pour nous. Et quand je vois certains chefs d'entreprise dire, nous, on va généraliser le télétravail à 3 à 4 jours par semaine, je suis très inquiet.
Moralité qui va lentement, va sûrement.
Tout à fait.
Merci Jérôme Chemin, Laurent Assouli, d'avoir répondu à toutes ces questions. Allo Cowork, c'est l'émission à retrouver sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, encore sur le site Allo Cowork, et bien sûr à partager l'émission sur vos réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine.
Allo Cowork, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.